Étienne Beau, Histoire des rapports entre la religion et la politique dans le diocèse de Cahors jusqu'en 1914. Dans notre précédente causerie, nous avons présenté les rapports apaisés entre religion et politique qui ont caractérisé, dans le diocèse de Cahors comme ailleurs, la période du Second Empire de 1852 à 1870. Rapport encore plus serein au début de la Troisième République, quand, après le désastre de la guerre de 1870 et l'écrasement de la Commune de Paris, les hommes au pouvoir, qui étaient en vérité bien peu républicains, très conservateurs ouvertement, ont favorisé l'Église pour s'assurer les votes des fidèles. Mais l'accord religion-politique s'est rapidement délité quand des républicains intransigeants et laïcs deviennent maîtres du jeu politique en France. C'est une véritable révolution culturelle qui a été menée au nom de la laïcité. Le basculement s'effectue dans le diocèse de Cahors, c'est-à-dire dans le département du Lot, à partir de 1879. En effet, tous les candidats aux élections, élections législatives, élections des maires dans les communes, tous les candidats qui étaient conservateurs jusqu'à ce moment-là doivent progressivement céder la place de députés, de sénateurs, de maires des villages et des bourgs à ces républicains beaucoup plus avancés. Et dans le programme de ceux-ci, il y avait la distance avec l'Église, à qui l'on reprochait d'avoir soutenu l'Empire, le Second Empire, et d'avoir ouvertement favorisé les conservateurs au début de la Troisième République, sous la présidence du maréchal de MacMahon, qui ne pensait qu'à une chose, rétablir la monarchie, ce qui avait failli d'ailleurs se produire en 1873 et qui finalement avait échoué du fait de l'intransigeance du comte de Chambord prétendant au trône, qui ne voulait pas accepter le drapeau tricolore. Donc, ces républicains réclament très vite la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du Concordat de 1801 qui donnait à l'Église un statut officiel, qui payait les ministres du culte, évêques, curés, vicaires, desservant toute la trame des paroisses qui couvraient la France. 1879, c'est le premier sénateur républicain qui est élu dans le Lot. Et les autres vont suivre, notamment, cela se traduit par le remplacement des députés issus de la famille Murat jusque-là. C'est Murat qui était tout naturellement favorable à l'Empire, évidemment, et il y en avait deux autres qui l'étaient également. Ces députés conservateurs, c'est-à-dire bonapartistes, vont céder la place à des républicains. Cela se passe dans la deuxième partie de l'épiscopat de Mgr Grimardias. Mgr Grimardias avait été mis à la tête du diocèse en 1866. Il est resté jusqu'en 1896, pendant 30 ans, ce qui est un des plus longs épiscopats de l'histoire du diocèse de Cahors. Monseigneur Grimardias, qui au début avait profité de la faveur de l'empereur et de son gouvernement, et qui, petit à petit, à partir de 1879, a été obligé de s'adapter à cette situation de rupture entre la religion et la politique. Monseigneur Grimardias, qui était à la tête d'un diocèse prospère, avec un clergé de plus de 700 prêtres, parfois, de petits villages de moins de 100 habitants avaient un curé qui est resté très souvent pendant toute sa carrière, cela arrivait. L'Église était souveraine dans ses missions d'assistance avec des communautés religieuses qui s'occupaient effectivement de cette assistance, qui s'occupaient également de l'enseignement, notamment les Filles de Jésus de Vélats, qui tenaient sens 27 écoles de filles dans le département et également la communauté Notre-Dame du Calvaire à Gramma qui avait 40 écoles plus 5 autres écoles qui s'occupaient des aliénés et des sourdes muettes. Beaucoup d'écoles primaires catholiques avaient le statut d'école publique conformément à la législation du temps. C'est tout cela qui va être remis en cause. Monseigneur Grimardias avait un tempérament conciliateur, pacificateur. Il a soigneusement voulu éviter toutes les occasions de conflit direct avec les autorités. Mais il va rapidement avoir à gérer des situations de moins en moins confortables. En effet, c'est une véritable révolution culturelle qui va s'ouvrir, nous l'avons dit, et l'Église va payer lourdement le soutien qu'elle avait apporté au régime précédent. Cela a commencé par les décrets du 29 mars 1880 contre les congrégations qui n'étaient pas autorisées. Et cela a touché particulièrement les Capucins, dont le couvent avait été établi dans la Haute-Ville en 1867 et qui seront sommés de quitter leur couvent puisque leur congrégation n'était pas autorisée. Ce couvent nous est connu aujourd'hui parce qu'il a abrité dans son intégralité, après le départ des Capucins, les archives départementales qui en occupe toujours l'essentiel. Ce fut ensuite les lois sur l'enseignement. Le 16 juin 1881, c'est la loi sur l'instruction, la loi Jules Ferry, qui instaure la gratuité de l'enseignement primaire. Il faut dire que cette gratuité était déjà très largement pratiquée en France comme dans le diocèse de Cahors. Par exemple, les enfants qui fréquentaient l'école religieuse, certes, située à l'angle aujourd'hui en face du collège Gambetta, si leurs parents n'avaient pas les moyens de subvenir aux frais, c'était absolument gratuit. Et c'était gratuit pour les classes populaires. Mais enfin, cette fois-ci, c'est généralisé. Et un an après, c'est complété par la loi du 28 mars 1882 qui impose non seulement l'obligation de l'enseignement, mais qui impose l'abandon de l'enseignement confessionnel. Alors, quelles conséquences ? Pour les écoles de filles, par exemple, les maîtresses pour enseigner dans ces écoles ne passaient pas du tout de concours public. Il leur suffisait d'avoir une lettre d'obédience qui était signée par l'évêque pour pouvoir enseigner sans problème. Par conséquent, cette loi entraînait la laïcisation du personnel. Alors, application immédiate, la municipalité de Cahors retire aux frères de la doctrine chrétienne leur école communale, qui avait le statut d'école publique. C'est la fermeture également du collège de Préissac, qui était le seul collège secondaire dans le département tenu par des religieux. Il avait été fondé par Pierre Bonhomme. Et l'évêque, évidemment, ne peut pas s'opposer à ces mesures qui sont absolument légales. Il se contente de donner aux instituteurs un avertissement contre ce qu'on a appelé les mauvais livres, c'est-à-dire les livres qui étaient susceptibles d'attaquer la religion. Mais au-delà de tout cela, Monseigneur Grimardias, qui a un tempérament conciliateur, encore une fois, évite tout éclat. Il admet le 14 juillet parfaitement comme fête nationale et l'Église s'y rallie. Il est d'ailleurs favorable à ce qu'avait proposé le pape Léon XIII, qui avait conseillé aux catholiques français de s'intégrer tout à fait normalement à la République et de ne pas avoir la nostalgie de régimes passés. Ce pape Léon XIII, qui a régné de 1878 jusqu'en 1903, était un homme qui avait compris la situation française et qui demandait par conséquent que l'on s'y adapte normalement. Monseigneur Grimardias est décédé le 27 mai 1896, encore une fois après 30 ans d'épiscopat, et ce sont ses successeurs qui vont affronter la rupture totale et l'opposition absolue entre le catholicisme et la politique nationale. Son successeur immédiat est Monseigneur Hénard, dont l'épiscopat se place entre 1896 et 1906. 10 ans d'épiscopat, nommé évêque de Cahors à 56 ans, dans un diocèse encore extrêmement actif, avec ce clergé nombreux, bien formé, dans le petit séminaire de Montfaucon, au départ dans le grand séminaire de Cahors ensuite, où il y a plus de 80 séminaristes. Ce Monseigneur Hénard était un homme qui sut se rendre populaire. Dans ses tournées pastorales, la canne à la main, dans les cantons reculés du département, il marchait à pied, il mangeait le pain noir du Ségala, il était très bien accueilli par le maire, les maires, les conseils municipaux, par la population. Parfois, il y avait un arc de triomphe à l'entrée du village quand il venait confirmer les enfants. Il y avait toujours des missions très actives, c'est-à-dire ces périodes au cours desquels une paroisse accueillait des prêtres qui étaient chargés par leurs homélies, par leurs manifestations, de raviver la foi, à Cajar ainsi, ça c'est une communion, une mission, c'était d'achever par une messe en plein air avec 800 communions, dont 300 hommes. Donc un diocèse bien administré qui manifestait une grande vitalité. De très grandes célébrations aussi, comme le grand pardon de Rocamadour qui a eu lieu en 1899. On peut dire que dans ce début de l'épiscopat de Mgr Hénard, on assiste à une sorte d'apogée de l'imprégnation chrétienne en Quercy. Et c'est dans ce contexte assez triomphal, il faut bien le dire, que Mgr Hénard va être l'évêque de l'abrogation du Concordat et de la séparation de l'Église et de l'État. On avait assisté à une montée de l'anticléricalisme dans le diocèse, des calomnies, des dénonciations. Et au sommet de l'État, le climat était détestable avec l'affaire Dreyfus, l'Église, dans sa majorité d'ailleurs, ayant été contre Dreyfus au nom de la défense de l'armée, et peut-être aussi par des relents d'antisémitisme. Cela s'est traduit, dans les années qui ont suivi, par une marche forcée de la laïcisation, dont l'issue revendiquée par les hommes au pouvoir, c'est-à-dire les radicaux, était la séparation de l'Église et de l'État. C'est une rupture définitive, c'est-à-dire le sentiment que l'accord est impossible et qu'il y a une véritable incompatibilité entre la religion et la politique. Cela passe d'abord par la loi de 1901 qui impose une autorisation aux congrégations religieuses qu'elles doivent demander si elles veulent continuer à exister. Le pape permettait aux religieux de la demander, mais le gouvernement d'Émile Combes à Paris les a fait refuser en bloc, ce qui fait que 18 000 religieuses sont dispersées, 1500 établissements sont fermés, les capucins de Cahors sont expulsés de leur couvent en 1902, et tout cela, évidemment, fait que l'opinion catholique est extrêmement heurtée, choquée. Les congrégations enseignantes, 150 au total, doivent fermer. Pour se maintenir, certaines, un quart environ, sont laïcisées, c'est-à-dire que les religieuses abandonnent leur costume religieux, se sécularisent en quelque sorte, pour prolonger leur œuvre d'éducation chrétienne dans ce qu'on appelle désormais des écoles libres et non plus des écoles religieuses. Cela est vraiment détestable parce que dans nos villages cohabitent désormais, non sans incident, deux écoles qui forment deux jeunesses qui sont désormais séparées par les passions politiques. Les processions sont supprimées, celles de la fête-dieu, celles de l'Assomption, tandis que les républicains organisent chaque année des fêtes à la statue de Gambetta et au monument des mobiles dans la haute ville. Enfin, en 1905, en juillet, est votée la loi de séparation. La liberté de conscience était garantie, mais l'Église perdait son statut officiel. Ses ministres n'étaient plus payés par l'État. Les édifices du culte étaient laissés gratuitement aux fidèles, qui pouvaient former des associations cultuelles, genre loi de 1901, association, qui pouvaient gérer les biens ecclésiastiques. La seule obligation, c'était de faire un recensement de ces biens c'est-à-dire les fameux inventaires. Alors dans le Lot, Mgr Hénard a protesté, comme la plupart de ses collègues de l'épiscopat français, mais il adopte encore une fois, lui aussi, une attitude conciliante. On n'a pas fait obstacle aux inventaires, et cela s'est passé dans l'ensemble bien, ou disons sans heurts majeurs. Malgré tout, la condamnation de la loi de séparation par le pape, le 24 février 1906, le pape Pie X, qui était bien moins ouvert aux réalités du temps que Léon XIII, va entraîner la résistance des opposants et surtout empêche la formation de ces associations cultuelles. Désormais, par conséquent, et c'est très grave, s'il n'y a pas d'association de catholiques qui se forme, puisque le pape le leur interdit, pour gérer les biens de l'Église, ceux-ci vont être mis sous séquestre, c'est-à-dire confisqués. Et c'est très grave parce que c'était évidemment, par exemple, l'évêché, le grand séminaire, le petit séminaire de Montfaucon, le château de Mercues, pour ne prendre que les éléments les plus spectaculaires, tandis que les presbytères étaient mis à la disposition des communes, ce qui évitait des affrontements puisque la commune louait ensuite pour un montant fort faible le presbytère au prêtre. Ainsi, la tension est très grande et c'est à ce moment-là qu'il y a eu, lors des inventaires, des oppositions. Des fidèles qui s'opposent à l'entrée des fonctionnaires, qui font des barrages, les fonctionnaires qui sont obligés de faire marche arrière, une quarantaine d'incidents par conséquent. Mais enfin, rien d'extrêmement dramatique malgré tout, mais la rupture est totale. Les anticléricaux, d'ailleurs, s'étaient félicités de la condamnation du pape qui rendait toute conciliation impossible. Les anticléricaux les plus forcenés, en effet, étaient très mécontents car ils trouvaient que la loi de séparation était trop libérale, était trop gentille vis-à-vis de l'Église. Ils auraient voulu en profiter pour, comme en 1789, faire une loi beaucoup plus dure. Ils n'y avaient pas réussi et voilà que le pape leur en donnait l'occasion. La nuit, c'est que Mgr Hénard, à son corps défendant, a été élevé à l'archevêché d'Auch. Il s'était efforcé de calmer les esprits, tout en protestant. Ses successeurs, au contraire, Mgr Laurence et Mgr Césarac, vont être des évêques de combat qui vont parfois violemment non seulement protester, mais engager des poursuites légales, judiciaires, contre des personnels de l'éducation et qui ont mené une attitude véritablement révolutionnaire dans le sens qu'ils refusaient toute application raisonnée de la loi. Alors, en conclusion, on peut se demander comment les populations du Lot ont apprécié ces conflits. Il suffit de regarder les résultats des élections. Les radicaux, c'est-à-dire ces républicains laïcs intransigeants, ont conservé la majorité. Ce qui fait qu'on arrivait à ce paradoxe que les lotois votaient pour des candidats anticléricaux, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus anticléricaux à Paris qu'à Cahors, ou dans le département. Ils se calmaient un peu là. Et surtout, Ce qui est très grave, ces fidèles qui votaient radical, ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient finalement à la religion en votant pour des gens qui avaient un parti pris évident. Alors pourquoi ont-ils continué tout en allant à la messe et en pratiquant la pratique continue très largement? Pourquoi cette originalité lotoise finalement, cette dissociation de politique et religion, les Lotois ont refusé de lier la politique et la religion. Alors pourquoi? On peut invoquer des raisons économiques, par intérêt peut-être. L'économie du Lot est à ce moment-là sinistrée. Songez que le Lot a perdu 40 000 habitants de 1890 à 1914. C'est une dépopulation record à cause de la crise du phylloxéra, à cause du manque d'activité, pas d'industrie. Ce qui fait que les députés et les hommes politiques étaient vus comme un recours. Par exemple, leur appui était important pour obtenir des permis de planter le tabac, qui était la culture qui a permis de sauver des exploitations à ce moment-là. Donc, comme l'a dit l'abbé Calvé dans un article remarquable de la revue du catholicisme français, nos paysans, lotois, sur une terre fatiguée, votent pour celui qui peut les aider à vivre. On ne fera pas le procès de penser que c'était uniquement par intérêt qu'ils ont voté ainsi. On peut penser aussi que leur bon sens, les traditions d'indépendance des Quercinois, soucieux de ne se lier ni aux uns ni aux autres, le curé à l'église, disait-on, l'instituteur à l'école, ont fait qu'ils ont effectivement adopté cette attitude qui paraît originale, contrairement au département voisin, l'Aveyron, très pratiquant, a continué à voter pour des conservateurs amis de l'Église. Le Lot-et-Garonne, déchristianisé, lui, au contraire, a voté tout de suite pour des candidats de gauche. C'était tout à fait logique. Évidemment, on peut redire encore que les fidèles lotois n'ont pas effectivement perçu le danger pour l'avenir, le danger pour l'avenir de la vie religieuse en Quercy. Et puis, ainsi, ça a été bien analysé par l'abbé Calvé encore une fois, après la guerre de 14 commence la déchristianisation, une lente déchristianisation. Après la guerre de 14, déchristianisation qui s'est poursuivie tout au long du XXe siècle.